Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois et Rosalie Suc, mais aussi Margot Leridon et Bertille Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jordan Fuentes. Suite de notre série consacrée à l'Amérique du Sud, un sous-continent sous tension. Lundi, nous avons parlé de l'échec du néolibéralisme de l'Argentine au Chili. Mardi, nous sommes intéressés à la crise politique en Bolivie. Aujourd'hui, cap sur le Brésil, où 34 ans après la fin de la dictature militaire, l'armée retrouve une place importante dans la vie politique. Brésil, le retour du militarisme, c'est le sujet de notre émission ce matin.
Contre le communisme et pour notre liberté. Contre le forum de São Paulo. Au nom de la mémoire du colonel Carlos Alberto Briante Ustra, terreur de Dilma Rousseff.
J'ai déjà vécu une dictature, je ne veux pas en vivre une autre. Et lui va être un président qui va légitimer la dictature. Avec des militaires au pouvoir, y compris dans le pouvoir judiciaire, il va avoir les mains libres.
Personnellement, je ne vois pas en quoi c'était une dictature. Tout le monde avait sa liberté, la sécurité était revenue, les gens pouvaient marcher tranquillement dans la rue. Et après cette période, malheureusement, tout a changé. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui on a un militaire qui a été élu. Les collèges militaires sont bien plus en avance que les autres écoles. Ça n'a rien à voir avec la qualité des professeurs. C'est juste que depuis plusieurs années, on a perdu l'autorité dont notre pays a besoin.
Voilà, Jair Bolsonaro faisant les louanges des écoles militaires, regrettant que son pays ait perdu l'autorité dont il a besoin, regrettant même le temps de la dictature. L'erreur de la dictature a été de torturer sans tuer. Voilà ce qu'il avait même dit Jair Bolsonaro au micro d'une radio brésilienne, c'était en 2016. Deux ans plus tard, le 28 octobre 2018, cet ancien militaire, qui a longtemps été député fédéral à Rio, est élu à la tête du Brésil grâce à une campagne marquée par un discours sécuritaire. Le président d'extrême droite ne s'en cache pas, il ne considère pas la dictature militaire comme un chapitre sombre de l'histoire. Bien au contraire, il n'hésite pas à rendre hommage au tortionnaire Carlos Alberto Briante Ustra, le premier responsable militaire à être condamné par un tribunal civil à Sao Paulo en 2008 et pour remettre de l'ordre dans son pays, comme il l'a promis lors de son discours d'investiture. Il place des militaires au gouvernement et défend les policiers à la gâchette facile. Alors comment interpréter l'arrivée au pouvoir d'un nostalgique de la dictature ? Quel lien Jair Bolsonaro entretient-il avec l'armée aujourd'hui ? Pourquoi l'héroïsation de la junte militaire et le retour des militaires au pouvoir ne choquent pas la société civile ? Et enfin, que dit ce regain du militarisme de la perception que les Brésiliens ont de ce passé ? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité évidemment une historienne. Bonjour Mochirio.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Vous avez écrit notamment « La politique en uniforme, l'expérience brésilienne 1960-1980 » qui est paru aux presses universitaires de Rennes. Il se trouve que je vous avais reçu à peu près à ce moment-là, il y a un peu plus d'un an, juste avant l'élection précisément de Jair Bolsonaro, le 28 octobre 2018. On est maintenant un an après. À l'époque, juste après le scrutin, on s'était beaucoup interrogé, beaucoup inquiété sur cette élection, considérant que il y avait un retour en force du militarisme qui peut-être pouvait menacer la démocratie brésilienne. Est-ce qu'on a eu raison de s'inquiéter, Mochirio, ou finalement, au-delà des phrases chocs, au-delà des provocations, cette nostalgie affichée de la dictature, elle n'a pas eu de réelle traduction politique?
Bien sûr qu'elle a eu une traduction politique. La première en est que, effectivement, le gouvernement actuel au Brésil est un gouvernement militarisé, puisque plus d'un tiers, non seulement des ministres, mais également de leur personnel de cabinet, sont des militaires, de la réserve, mais aussi de l'active. Donc, on ne peut pas parler d'un retour de la dictature militaire, mais du retour d'un pouvoir militarisé. C'est une réalité indéniable et qui n'est pas vouée à être modifiée.
Quels sont les postes, justement, qu'ils détiennent?
Alors, les postes détenus, c'est le ministère de... le cabinet de sécurité institutionnelle, qui est une espèce de ministère de l'intérieur, des chefs de l'ensemble des renseignements, le ministère de la défense, c'est-à-dire le ministère qui a la tutelle sur l'ensemble des forces armées, qui était traditionnellement, sous la Nouvelle République, donné à un civil, les ministères de la science et des technologies également, et tout un tas de ministères qui sont destinés à la recherche, en fait, à la recherche au développement industriel, non pas à la recherche universitaire. plein de ministères qui sont des ministères techniques en fait, mais qui ont une très grande importance dans l'appareil d'État. Mmh. Pour l'instant, le ministre de la Justice, qui est également le ministre de l'Intérieur, c'est le juge anticorruption Sergio Moro, mais dans son administration, beaucoup de militaires aussi ont pris de l'importance.
Dans l'administration judiciaire ?
Alors, pas dans l'administration judiciaire, dans l'administration du super ministère, qui est à la fois le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Mais dans l'appareil d'État qui commande aux forces de sécurité fédérales, beaucoup de militaires ont pris une importance absolument centrale, en sachant qu'au niveau des États fédérés, la militarisation est déjà une réalité depuis plusieurs années, hein, en particulier dans l'État de Rio, où l'armée est désormais centrale dans le maintien de la sécurité publique.
Et qu'en est-il précisément dans le domaine judiciaire ? Parce qu'on dit depuis des années qu'il y a eu une politisation du domaine judiciaire, Sergio Moro étant évidemment l'incarnation, la figure de cette politisation du judiciaire. Est-ce qu'il y a eu une militarisation du judiciaire depuis l'arrivée de Bolsonaro ?
Alors, il n'y a pas une militarisation du judiciaire.
Au sens où ils auraient pris un pouvoir de plus en plus fort sur ce secteur-là ?
Non, il y a une tutelle militaire sur les principales décisions judiciaires qui peuvent impacter l'avenir du pays. En particulier, à chaque fois qu'il est question de limites aux enquêtes anticorruption, qui sont en fait devenues des enquêtes de persécution politique, chaque fois qu'il est question de l'éventualité de la libération de Lula, par exemple, des militaires qui d'habitude se taisaient sous la Nouvelle République, donnent leur avis, qui est systématiquement un avis de contrainte des décisions judiciaires, en menaçant prendre des initiatives physiques pour que certaines décisions soient interdites. Mmh. Ça a été le cas à deux reprises, lorsque l'éventualité d'une libération conditionnelle de Lula a été évoquée par la Cour suprême. À deux reprises, le commandant-chef de l'armée de terre, puis l'ancien commandant-chef de l'armée de terre, mais qui demeure très important, a dit que s'il se passait cette libération, les forces armées prendraient les mesures nécessaires.
Rappelons qu'il est toujours derrière les barreaux, Lula. Alors, il y a évidemment des ministres au gouvernement qui sont issus des rangs de l'armée, mais il y a aussi, au sein du Parlement, des élus qui sont des militaires, c'est-à-dire qu'ils ont aussi accru leur influence au Parlement.
Tout à fait. La militarisation de la politique au Brésil, c'est pas simplement une militarisation du gouvernement. C'est vraiment une militarisation de la scène politique qui a été accrue considérablement, évidemment, avec Bolsonaro, qui, on le sait, est un ancien militaire, un capitaine de la réserve, mais qui est un processus de plus longue date qui a accompagné la crise démocratique que vit le Brésil depuis au moins 2014-2015, une crise démocratique construite, hein, en partie, à dessein, par des camps politiques qui entendaient en profiter, mais qui a débouché sur le fait qu'une partie de l'opinion ne croit plus à la classe politique, et donc ne croit plus aux civils, et ce qui ouvre un espace pour des figures qui se présentent comme non-civiles, donc à l'écart de la politique politicienne, plus droit, moins imperméable à la corruption, et donc des militaires.
Vous dites 2014, Dilma Rousseff était encore là. Mm-hmm. Ça veut dire que cette militarisation, elle s'est faite à ce moment-là sous Dilma Rousseff ?
Alors, la militarisation des assemblées législatives, effectivement, elle commence en 2014, pas à l'initiative du gouvernement fédéral, mais du fait de candidats militaires
qui se présentent. Au moment des élections générales de 2014.
Voilà, des élections législatives, mais aussi dans les assemblées municipales, hein, et dans les assemblées des États, on voit une multiplication par 5, 10, 15, 20, en fonction des régions du pays, du nombre de candidats et du nombre d'élus militaires dans les assemblées, qui sont systématiquement des personnages extrêmement à droite et qui ont un discours pas forcément identique à celui de Bolsonaro, mais d'extrême droite.
Alors, une fois qu'on a dit ça, Mochirio, regardons peut-être d'un peu plus près encore les choses. Parce que si on regarde ce qui s'est passé ces derniers mois, on a vu aussi qu'il y a eu un certain nombre de remaniements ministériels et que certains ministres précisément qui étaient issus des rangs de l'armée ont été évincés, limogés, je ne sais pas comment il faut le dire. Mm-hmm. Je pense en particulier au général Santos Cruz. Si on regarde ce cas précisément, pourquoi est-ce qu'il a été limogé ? Est-ce qu'on peut le voir comme le signe d'une forme de reflux de l'influence des militaires au sein de l'exécutif brésilien ? Ou est-ce que c'est un cas tout à fait à part ? Est-ce que, à mesure justement que s'est exercé le pouvoir de Bolsonaro, on a eu tendance à mettre de côté un peu leur pouvoir ?
Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, Bolsonaro, bien que qu'étant un ancien militaire, militaire de la réserve, c'était pas du tout un personnage important dans l'imaginaire militaire et dans l'institution armée, parce que c'est quelqu'un qui a été exclu des forces armées, encore jeune, parce qu'il défendait les salaires des militaires subalternes. Donc, c'est pas quelqu'un qui peut être porté au pinacle par des généraux. Au contraire,
c'était un simple capitaine.
C'était un simple capitaine, mais pas un lieutenant. Il est passé à la réserve comme capitaine, mais c'était un lieutenant, donc le plus bas échelon de la hiérarchie des officiers. Et donc, un personnage provocateur, outrancier, qui était absolument à l'écart du décorum militaire. Il a été choisi par un certain nombre de...
Carrément un trublion. Rappelez-nous pourquoi il a été... Parce qu'il a été exclu de l'armée.
Il a été exclu de l'armée parce qu'il avait prévu de poser des bombes dans les toilettes d'un certain nombre d'institutions militaires et d'écoles militaires pour protester contre la faiblesse des soldes.
Même s'il y a eu un non-lieu, je crois, du tribunal militaire devant lequel il est passé. Il n'y avait pas suffisamment de preuves pour le condamner.
Il a été condamné à un conseil de discipline, puis blanchi, puis recondamné. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a été choisi par une partie de la haute hiérarchie militaire, tardivement, comme le candidat qui allait pouvoir être au service des intérêts des militaires dans le cadre de cette grande crise démocratique. Et une partie du désamour entre l'équipe de Bolsonaro et une partie des généraux, pas tous, mais une partie, vient du fait que ces généraux constatent que ce n'est pas quelqu'un qui est au service de leurs intérêts, qui obéit au commandement de l'armée de terre. Il a ses propres logiques, d'autres réseaux, d'autres soutiens, des soutiens religieux, des soutiens économiques et financiers, des soutiens politiques propres, avec des groupes politiques et idéologiques qui ne sont pas spécialement militaires, et qu'il n'obéit pas au commandement. Et cela crée des tensions. Et à la fin du printemps, au début de l'été en France, en mai-juin, ça a débouché sur des vraies crises, avec...
C'est-à-dire
ce que vous avez évoqué, des évictions, avec le remplacement de figures très importantes au sein de l'armée par des gens qui sont simplement dans les cercles personnels de Bolsonaro, qui sont aussi des militaires, mais qui sont dans les cercles personnels de Bolsonaro, et qui montrent que le pouvoir de Bolsonaro est plus simple qu'un pouvoir militaire au service de l'institution. C'est un pouvoir qui s'appuie sur les évangélistes, qui s'appuie sur des lobbies financiers néolibéraux, qui s'appuie sur des groupes fascisants d'extrême droite civile, et qui donc est plus compliqué et plus polyarchique qu'un pouvoir militaire simple.
Oui, on disait de lui que c'était le candidat des 3 B, de la Bible, du bœuf et de la balle. Il y a peut-être un domaine dans lequel il peut y avoir potentiellement des tensions entre Bolsonaro et l'armée, c'est le domaine économique. Bolsonaro, on le sait, est un libéral pur jus. Son ministre de l'économie, Paulo Guedes, est un vrai libéral formé à l'université de Chicago et de son célèbre Milton Friedman. Du côté de l'armée, traditionnellement, les militaires sont plutôt assez interventionnistes dans le domaine économique. Est-ce que c'est un domaine où, là aussi, il y a eu des étincelles depuis l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro?
Alors, des étincelles moins visibles et moins importantes que ce qu'on aurait pu imaginer, parce que en effet, les militaires brésiliens, à la différence par exemple des militaires chiliens, ont été touchés moins fortement et moins précocement par la grande vague néolibérale des années 70 et 80. Ça s'est vu dans les politiques mises en œuvre par la dictature militaire, qui n'a pas été une dictature néolibérale, au contraire, ça a été une dictature d'oppression sociale, de répression sociale, mais une dictature plutôt étatisante, qui a plutôt nationalisé que privatisé. Et cette tradition étatisante, elle demeure dans les forces armées brésiliennes, même si, comme tout un tas d'institutions et de groupes conservateurs, ils ont fini par être touchés par les imaginaires néolibéraux, plus tardivement, dans les années 80-90, et c'est plus une institution qui porte un discours d'État interventionniste aussi fortement qu'il y a 30 ans. Néanmoins, il n'est pas, c'est pas une institution qui est massivement néolibéralisée. Or, le projet porté par le gouvernement de Bolsonaro, et en particulier par Guedes, parce que Bolsonaro, il n'avait pas d'opinion sur la question, c'était pas quelqu'un qui était convaincu d'idéologie néolibérale, il est en décalage avec, disons, le point d'équilibre des forces armées. Pourtant, pour l'instant, ça n'a pas créé de rupture radicale parce que les états-majors s'opposent aux mesures quand elles les concernent directement, c'est-à-dire ne s'opposent pas, par exemple, à la réforme des retraites ou à la réforme du code de travail, ils s'opposent au fait que la réforme des retraites leur soit appliquée. Avec succès d'ailleurs, puisqu'il continue d'être mis à l'écart de tout un tas de réformes actuelles de réduction des droits pour à la fois les travailleurs et les fonctionnaires. Et à chaque fois, de manière assez habile, le gouvernement met à l'écart les officiers, d'ailleurs pas les sous-officiers et pas les soldats, c'est-à-dire ceux qui peuvent fragiliser le gouvernement s'ils arrêtent d'être une de ces bases politiques.
Regardons peut-être, Mojirio, les relations de Bolsonaro avec la figure la plus saillante, justement, des militaires, celle du vice-président Hamilton Mourão, lui général de l'armée, hein, pas simple capitaine, très important dans l'armée, général de l'armée, à la retraite. Pendant la campagne, tout le monde l'avait vu comme vraiment l'ultra-droitier du ticket, c'est dire quand on voit déjà les positions de Bolsonaro. Il avait évoqué la possibilité d'envoyer l'armée en cas d'anarchie. Il avait expliqué que les difficultés du pays étaient liées à l'indolence des Indiens, je cite, et à la roublardise des Noirs. Voilà, ça situe un tout petit peu le personnage. Sauf que, étonnamment, ce qu'on a le sentiment de voir depuis l'arrivée de Bolsonaro, c'est qu'il est presque dans le binôme l'agent modérateur aujourd'hui.
Alors,
c'est ce que disent un certain nombre d'observateurs.
Il est l'agent modérateur parce qu'il joue à l'agent modérateur. Mourão, il était connu dans l'armée avant de devenir candidat à la vice-présidence et vice-président, comme le trublion des généraux, celui qui avait le verbe haut, celui qui était extrêmement provocateur. Et depuis qu'il est vice-président de Bolsonaro, il essaie de se distinguer du style de Bolsonaro pour être un éventuel recours. Il a besoin d'être différent pour être un recours. Donc sa différenciation n'est pas une modération politique, à mes yeux, mais un jeu qui est mis en œuvre pour se différencier suffisamment en cas d'empêchement de destitution de Bolsonaro et de ne pas partir avec l'eau du bain.
Hein. Il vise la présidence ?
Bien sûr qu'il vise la présidence. Depuis l'élection, il vise la présidence, Mourão. Alors, il vise la présidence. Il n'est pas dans une opération de destitution ou de complot pour destituer Bolsonaro, mais c'est de notoriété publique qu'il sait qu'il existe une possibilité, comme tout le monde, que Bolsonaro ne fasse pas l'intégralité de son mandat, et que dans ce cas-là, il y aura deux possibilités, soit Bolsonaro tombe tout seul, soit le ticket tombe, en fonction de ce qui sera décidé comme mise en accusation, et que lui, il jouera le fait que Bolsonaro tombe tout seul. C'est d'ailleurs quelque chose...
Est-ce qu'il joue déjà cette carte-là? Parce que, Mojirio, expliquons aux auditeurs, rappelons... Ils sont peut-être pas tous au fait de l'actualité brésilienne, qu'on est en ce moment dans un moment très particulier. Il y a eu une colère extrêmement vive récemment de Bolsonaro à l'égard de TV Globo, qu'il a traité de pourriture, d'enfoiré. C'était vraiment extrêmement violent. Et pourquoi il a fait ça? Tout simplement parce que TV Globo a révélé il y a quelques jours que son nom était cité dans l'enquête de police qui porte sur le meurtre de la conseillère municipale de Rio, personnalité de gauche, Marielle Franco, pardon, qui avait été abattue en 2018. Il se trouve que l'un des suspects de l'assassinat se serait rendu, j'utilise le conditionnel, dans la résidence où vivait précisément Jair Bolsonaro, quelques heures avant le meurtre de la militante. Est-ce que on a là une situation où Bolsonaro pourrait être... est-ce qu'il pourrait faire l'objet d'une procédure de destitution, et est-ce que Mourão, justement, est déjà en train de placer des billes dans cette option-là, dans cette perspective-là?
Alors, Bolsonaro, il aurait moyen, hein, il y aurait des arguments pour le destituer déjà environ 15 fois depuis son élection, hein, la rupture du décorum, un certain nombre de fautes qui ont été commises dans ce que vous évoquez, c'est-à-dire la suspicion du fait qu'il était au moins au courant du projet d'exécuter Marielle Franco. Il a envoyé son fils récupérer les enregistrements du portier qui attestait du fait que l'un des tueurs a été autorisé à entrer dans la propriété par Bolsonaro lui-même, le fils de Bolsonaro, avant l'arrivée de la police scientifique, a été récupéré les enregistrements. En tant que tel, juste cet élément-là, c'est une entrave à la justice évidente dans une affaire d'assassinat politique, c'est déjà un élément pour entamer une procédure de destitution.
Alors pourquoi il n'y a pas de procédure?
Mais parce que les procédures de destitution ne sont pas motivées par des réels motifs juridiques au Brésil. Celle de Dilma Rousseff a eu lieu parce qu'il y avait un consensus politique au sein du Parlement et au sein des grandes instances judiciaires pour la destituer, alors qu'il n'y avait absolument aucun motif constitutionnel. Et à l'inverse, alors qu'actuellement, il y a 10 motifs constitutionnels pour destituer Bolsonaro, il n'y a pas de consensus au Parlement actuellement pour le destituer. Donc, le droit...
Oui, donc Hamilton Mourão ne joue pas cette carte-là, puisque de toute façon, ce n'est pas une perspective.
Alors, c'est pas une perspective pour l'instant, ça peut changer très rapidement, puisque tout dépend des équilibres internes à l'appareil d'État. Si cette affaire elle a été révélée actuellement, c'est qu'une partie de la police, une partie des médias et une partie de la classe politique est en train de tenter de fragiliser très nettement la personnalité de Bolsonaro, au service de qui, c'est un petit peu mystérieux. Bolsonaro lui-même, dans l'interview que vous évoquez, a accusé le gouverneur de l'État de Rio, qui est quelqu'un peut-être encore plus à l'extrême droite que tous les personnages qu'on a évoqués. Hein. C'est un personnage dont l'activité favorite dans son temps libre, c'est d'accompagner des gendarmes en hélicoptère pour aller lui-même mitrailler les quartiers périphériques où on suspecte que des trafiquants se cachent. Faut voir donc ce que c'est que ce personnage-là. Avec, évidemment, quand on mitraille depuis un hélicoptère, en général, on ne tombe pas précisément sur les personnes qui étaient visées. Et Bolsonaro, un peu de nulle part, a accusé le gouverneur d'être derrière cet énorme complot qui viserait à l'attentat de Marielle Franco. Donc, cette polyarchie se déchire entre des personnalités ultra-conservatrices et les bénéficiaires peuvent être une partie des forces armées, avec la figure de Moulin, qui est mieux insérée parmi les militaires que Bolsonaro, mais une partie des autres acteurs vont avoir intérêt à ce que le ticket entier soit destitué, afin que le président du Parlement soit investi temporairement et qu'une classe politique plus traditionnelle puisse reprendre la main. Mmh. Donc, tout le monde joue sa carte actuellement, les militaires et l'armée parmi d'autres, et on ne sait pas du tout qui va être vainqueur d'une déstabilisation du pouvoir.
Mochirio, il y a évidemment les responsables politiques, il y a le jeu politique politicien, il y a les acteurs de ce jeu, mais il y a aussi la société brésilienne. Parce que si Bolsonaro est là, c'est parce qu'il a été élu. Évidemment, Bolsonaro a une forme de fascination vis-à-vis de la chose militaire, mais s'il a été élu, c'est qu'il y a aussi quelque chose dans la société, en tout cas une frange de la société brésilienne, de l'ordre d'une nostalgie de la période militaire. Comment le comprendre ?
Alors effectivement, comme vous le dites, Bolsonaro il a été élu et à regarder trop Bolsonaro, on oublie le bolsonarisme et l'adhésion. Oui. Et finalement, le problème n'est pas l'existence d'un personnage comme ça. On connaît des militants d'extrême droite, tous plus radicaux les uns que les autres partout dans le monde. Le problème est d'avoir 55 millions de personnes qui votent pour eux alors qu'ils ne cachent pas leurs opinions ni leurs projets politiques. Alors oui, effectivement, Bolsonaro il a été élu parce que ses propos ne choquaient pas sur tout un tas de choses, hein, sur les droits humains, sur la tolérance à l'égard de la différence des orientations sexuelles, des droits des femmes, etc. Mais aussi à l'égard de la dictature. Ses propos sur la dictature ne choquaient pas ou ne choquaient plus l'opinion. C'est un élément qu'il faut interroger, qui a à voir avec le fait que la mémoire qui nous semble évidente en Europe de ces régimes-là, c'est-à-dire une mémoire de rejet, une mémoire qui identifie ces pouvoirs comme des pouvoirs ayant mis en œuvre une terreur d'État, véritablement, ce qui est la manière dont nous voyons la dictature chilienne, la dictature brésilienne, c'est en fait une mémoire qui, en particulier au Brésil, est la mémoire d'une gauche engagée. Liée aux victimes, liée au réseau des associations et des ONG, et qui n'est pas la mémoire consensuelle dans la société. Pourquoi c'est pas la mémoire consensuelle dans la société, en particulier au Brésil ? Parce qu'au Brésil, la transition politique a été très incomplète. Elle ne s'est pas accompagnée de punition des coupables, elle ne s'est pas accompagnée de procès, elle ne s'est jamais accompagnée d'une remise en cause de l'amnistie, et elle ne s'est pas accompagnée d'un travail pédagogique. Il n'y a pas eu d'intégration de la dictature dans les programmes scolaires, par exemple. La dictature n'est pas enseignée à l'école au Brésil. On s'arrête en 45 ou dans les années 50, hein, on construit Brasilia et puis on arrête. Donc la dictature n'existe pas et pour toute une partie des jeunes, en particulier les jeunes qui ont été à l'école dans les années 90, qui étaient les années du silence absolu, la dictature existe de manière très lointaine. C'était des militaires au pouvoir et puis c'est tout en fait. Il n'y a pas de mémoire familiale, ce qui fait que quand une commission vérité a été mise en œuvre en 2012-2013, elle n'a pas était capable de mettre en œuvre un grand discours public consensuel et qui aurait pu être absorbé par l'opinion, d'autant moins que le gouvernement à cette époque-là de Dilma Rousseff était déjà fragilisé par les crises économiques, fragilisé par les enquêtes anticorruption, et donc la commission vérité a pas du tout atteint son objectif et a laissé demeurer une mémoire soit indifférente, soit plutôt positive de la dictature qui a été attisée, instrumentalisée par une extrême droite en très forte ascension dont Bolsonaro a été un peu le produit.
Alors, il y a la manière dont on se représente aujourd'hui cet événement-là, cette prise du pouvoir des militaires. Mais regardons comment est-ce qu'à l'époque, on la voyait. Je vais vous proposer d'abord une archive de 1964. D'abord, vous allez voir, peut-être que précisément, y compris à l'époque, depuis là où on n'était peut-être pas aussi critique que ça vis-à-vis de cette prise de pouvoir par les militaires. Écoutez.
Renversé par la coalition implacable de ses ennemis politiques et des principaux chefs militaires du pays, le président Goulart n'est plus aujourd'hui qu'un exilé qui a cherché asile en Uruguay, où il doit méditer sur la fragilité et l'impuissance du soutien populaire dont il se croyait assuré. Des milliers d'habitants de Rio de Janeiro, partisans du progrès dans l'ordre, devise du drapeau national, ont applaudi la chute de celui qui déclarait vouloir défier les puissances d'argent et les intérêts étrangers. Quant aux cadres de l'armée de terre qui passaient pour soutenir inconditionnellement le pouvoir légal, ils ont pour la première fois dans l'histoire du Brésil soutenu un coup de force dirigé contre les autorités constituées.
Voilà, Mochirio, alors je vais vous faire commenter la tonalité, la manière dont on appréhende ce qui est quand même un coup d'état militaire, hein, a priori en tout cas. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le livre que je mentionnais tout à l'heure, La politique en uniforme, l'expérience brésilienne, vous remettez en question justement cette idée que c'était un coup d'état militaire. Non pas cette idée que c'était un coup d'état militaire, mais aussi un coup d'état civil, dites-vous. C'est au fait civil et militaire.
Tout à fait. Alors, d'abord sur la réalité du coup d'État, ça a été un coup d'État qui a eu les militaires au premier plan, mais qui était appuyé par de très larges secteurs de l'appareil d'État d'abord, hein, mais aussi les grands médias, des grands groupes financiers, l'Église catholique, hein, qui était à l'époque la grande force religieuse. Il n'y avait pas vraiment de puissance religieuse protestante.
Mais c'était donc, les critiques tout azimut à l'égard de João Goulart.
Alors oui, c'était des critiques tout azimut. Alors bien sûr, le contexte de la guerre froide était fondamental. Goulart était considéré comme la porte ouverte au communisme parce que, même s'il était lui-même ni socialiste, ni communiste, ni même marxiste, il s'appuyait sur des mobilisations sociales importantes pour mener des réformes, la réforme agraire, une réforme fiscale, une réforme urbaine, etc. Et le fait de laisser exister ces grandes manifestations populaires a été considéré comme un acquiescement au fait qu'une révolution puisse avoir lieu au Brésil, hein. Il était surnommé le Kerensky brésilien, hein, c'est-à-dire celui qui fait une révolution libérale, hein, comme la révolution de février 17, et qui ouvre la porte finalement à octobre. C'était comme ça qu'il était vu par les militaires. Mais il était aussi vu comme le représentant d'un système corrompu, puisque dans l'imaginaire conservateur latino-américain, et pas simplement brésilien, il existe une très forte association entre tout ce qui est de gauche et l'idée de la corruption. C'est-à-dire, plus une force politique défend un État important, un État interventionniste pour les catégories populaires, plus cette force est soupçonnée de détourner l'argent public, en fait, d'utiliser à son profit l'argent qui est l'argent du peuple. Et donc, le fait d'associer le communisme ou le socialisme à la corruption, c'est quelque chose qui existe en fait depuis les années 30 en Amérique latine et qui n'a pas disparu.
Qui est toujours là aujourd'hui avec Bolsonaro.
Au centre du regard porté sur le Parti des Travailleurs au Brésil, puisque le Parti des Travailleurs est communiste, ça fait sourire de le voir comme ça.
C'est ce que dit Bolsonaro.
Bien sûr, c'est ce que dit Bolsonaro, mais le Parti des Travailleurs a mené une politique qu'on considérait comme au centre du Parti Socialiste si on le regardait avec un œil français. Hein, donc on est quand même loin d'une vague rouge. Hein. Ce parti est considéré comme à la fois comme communiste, subversif et comme corrompu parce qu'il est de gauche. Et donc l'association entre corruption et communisme, qui était celle de 64, reste absolument centrale dans le rejet absolu qui a été construit et qui a été adopté par une partie de l'opinion du Parti des Travailleurs. Et si vous voulez que je commente l'archive, on peut constater, hein, c'est ce qui saute aux oreilles, l'absence de rejet franc de la part du commentateur de ce qui était en train de se passer.
Même plus que ça, on peut parler carrément même d'une adhésion à ce coup de force.
Une tolérance. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, en France, c'est le général de Gaulle qui est au pouvoir, que le fait que des militaires soient très importants dans l'arrivée au pouvoir d'un homme fort, eh ben on l'avait vécu il n'y a pas si longtemps, en fait, sur le territoire national, hein, avec les débuts de notre République, de la Ve République, que le climat de guerre froide est très puissant et que la peur des dominos communistes, elle existe également de manière assez consensuelle dans tout un tas de médias européens et français en particulier. Et pour finir, ce coup d'État au Brésil, il arrive assez tôt. Et en particulier, il arrive avant le Chili. Et ce qui va changer le regard porté en Europe sur ces coups d'État, c'est le Chili. Et c'est l'idée qu'un gouvernement certes socialiste, mais éminemment démocratique, non violent, peut être renversé dans le sang au nom de la démocratie et du monde libre. Et c'est ça qui va construire l'imaginaire du rejet des coups d'État qui n'existait pas avant. Et 64, c'était trop tôt pour que cet imaginaire il existe.
Moi, Thierryot, on va dans quelques instants accueillir une nouvelle invitée pour parler de l'Uruguay, puis ensuite on parlera du Paraguay, où là aussi il y a un passé militariste avec des dictatures. Question assez générale pour peut-être conclure notre propos sur le Brésil. Jusqu'où est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la démocratie brésilienne? Il y a quelques jours, le fils de Bolsonaro a expliqué que si la gauche continuait à se radicaliser, on allait envoyer l'armée, qu'on allait revenir dans une forme de régime autoritaire, même carrément dictatorial. Alors, il s'est fait un peu taper sur les doigts par son papa, qui a dit, bon, il s'est mal exprimé, il a été mal compris. Mais comment est-ce qu'il faut interpréter tout ça? Est-ce que réellement il y a un danger aujourd'hui pour la démocratie brésilienne, ou au fond les institutions, la constitution brésilienne, tout l'édifice démocratique qui a été mis en place depuis 88 est suffisamment solide pour résister à tout ça?
De fait, il n'est pas suffisamment solide, on le sait déjà, puisqu'il n'a pas résisté à ce qui s'est passé depuis 3-4 ans, et ce qui s'est passé depuis 3-4 ans est déjà non démocratique. La destitution d'Dilma Rousseff n'est pas démocratique, elle est illégale, l'emprisonnement de Lula est illégal, et déjà on n'est plus dans un ordre démocratique. Bolsonaro, certes, est arrivé au pouvoir par la voie des urnes, donc les gens ont voté pour ça, terme de 3 ans de déconstruction de tout ce qui avait été construit, et en particulier d'une impartialité de la justice, quand on enlève 3/4 des candidats, c'est un petit peu plus compliqué de voter et de considérer que le vote est libre. Donc évidemment, il faut s'inquiéter pour la démocratie brésilienne. C'est un pays de 210 millions d'habitants, c'est une très grande puissance économique, tout ce qu'on avait cru impossible jusqu'à présent est arrivé. On avait cru impossible que les institutions ne résistent pas, on avait cru impossible qu'une figure comme Bolsonaro arrive au pouvoir, on pensait qu'il gouvernerait au centre droit, ce n'est pas le cas, et bien que le modèle d'une dictature à l'ancienne soit peu probable, on ne va pas avoir une junte avec des tanks dans la rue, mais le fait que cela devienne un régime violemment répressif contre tout un tas de minorités et contre l'essentiel de l'opposition est une réalité qu'on ne peut plus nier. Pour vous donner un élément de preuve, cette nuit, un mandat d'emprisonnement a été émis à l'encontre de Dilma Rousseff, qui a été cassé par le président de la Cour suprême, dans le cadre d'une enquête où elle n'est même pas citée. Donc la persécution de toutes les figures qui dépassent, elle est déjà en œuvre, et donc la démocratie n'est plus déjà le régime en vigueur au Brésil.
On était avec vous, Maud Thierryot, dans cette émission consacrée au Brésil et à ce retour du militarisme dans cette série consacrée à l'Amérique du Sud. On va quitter le Brésil, prendre la direction de l'Uruguay.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
L'Uruguay donc, alors que l'Uruguay est souvent présenté comme un modèle par ses voisins au regard des différents indices socio-économiques, c'est un pays qui n'échappe pas complètement aux dynamiques actuelles en Amérique du Sud, puisque c'est un pays dans lequel une loi d'amnistie empêche officiellement toute forme de justice traditionnelle, où les militaires grappillent du pouvoir par les urnes, avec notamment un parti d'extrême droite militaire qui a obtenu 11% des voix au premier tour des élections générales d'octobre dernier. Je propose d'écouter Guido Manini Rios, qui justement a recueilli ces 11% de voix.
Être militaire ne signifie pas être antidémocratique, bien au contraire. Les militaires font depuis longtemps partie de la vie politique uruguayenne. Il y a 50 ans, nous avons élu un président qui était militaire, le général Oscar Gestido. J'ai connu l'époque durant laquelle les militaires ont renversé les institutions, mais je ne dirais pas que les militaires sont antidémocratiques. De plus, le parti Cabildo Abierto n'est pas un parti militaire. C'est un parti qui compte plusieurs militaires et dont le candidat principal est un militaire, mais il rassemble également des travailleurs, des étudiants, des retraités, des gens qui viennent de tous les secteurs politiques. Les militaires soutiennent le parti parce que le candidat est un militaire et qui donc le connaissent de cette manière. Mais je ne dirais pas que c'est un parti militaire.
Voilà, donc Guido Manini Rios, qui vient de recueillir 11% des voix lors de la dernière élection générale d'octobre dernier. Est-ce qu'il faut craindre un retour du militarisme dans cet Eldorado économique et social? Bonjour Florencia Dancilio.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue, membre du Centre de recherche et de documentation sur l'Amérique latine à Paris 3 et vous avez coordonné notamment un cahier des Amériques sur l'Uruguay. Il y a eu donc cette élection. Alors, disons quand même, hein, c'est le candidat de gauche, Daniel Martinez, qui est arrivé en tête avec 38% des voix, devant le candidat de centre-droit, Luis Lacalle-Pou, 28%. Mais quand même, on a cette arrivée là en trombe de... Oui. Cabildo Abierto, Cabildo ouvert, qui a obtenu un peu plus de 10% des voix, qui aura 11 députés, dirigé par Guido Manini-Rios, qu'on vient d'entendre. Comment est-ce qu'il faut interpréter son arrivée en force dans le paysage politique? Je rappelle que c'est une force politique qui n'existait pas lors des précédentes élections en 2014. Est-ce qu'on a là un retour en force du militarisme en Uruguay ou est-ce qu'il ne faut pas exagérer?
Enfin, c'est un nouveau parti en fait qui vient d'être créé cette année en fait suite à la rémission de son poste de Guido Manini-Rios qui était il faut le dire les chefs de l'armée sur le gouvernement de gauche. Et je pense pas qu'on puisse parler d'un retour du militarisme en Uruguay en tant que une présence forte dans l'état des valeurs militaires, mais oui bien évidemment d'un retour des militaires au jeu politique, c'est pas la même chose, mais donc.
Et à quoi c'est dû?
Pardon?
À quoi c'est dû?
Et bon, les explications, ils sont bien évidemment, il y a plusieurs explications. D'abord, il y a donc du coup cette expansion de ce qu'on peut appeler une dimension micropolitique du capitalisme, avec entre autres aspects cette idée de l'entrepreneuriat et de la réussite économique. Ça, c'est une alliance entre l'extrême droite et les droites libérales très claire qui a été donc du coup affirmée dans la coalition qui crée pour le deuxième tour. Mais il y a aussi un discours de la peur, un retour du discours de la peur autour de l'insécurité et d'un supposé chaos qu'il faut ordonner. Donc il s'appelle à la main dure pour donc du coup rétablir l'ordre. C'est un discours qui est très lié à la rhétorique militaire, une sorte de style de faire la politique nouveau en Uruguay, de la incorrection, c'est-à-dire de dépasser certaines limites, de pousser la frontière de ce qu'elle peut être dite et ce qu'elle peut être fait. Et bien évidemment, je pense qu'il est...
Vous n'y croyez pas, Florencia Dancilio, vous n'y croyez pas, vous parlez d'un discours de la peur, d'un supposé chaos, vous n'y croyez pas, parce que effectivement, pendant longtemps, l'Uruguay était vu comme un pays quasiment, disons, forme de havre de paix. Et beaucoup de personnes du côté de l'Uruguay disent que les choses ont changé. En tout cas, le sentiment d'insécurité, visiblement, est bel et bien là. Vous pensez que c'est qu'un sentiment, c'est largement un fantasme?
C'est pas qu'un sentiment, mais il y a quand même une perception d'insécurité qui dépasse et la situation réelle, c'est-à-dire d'ailleurs des enquêtes récentes montrent comment les gens se sentent plus insécures de ce qu'ils ont été vraiment. Et c'est un discours, bien évidemment, qui a été reproduit et amplifié par les grands médias de communication. On allume la télévision en Uruguay depuis deux ans et on a l'impression d'être vraiment au bord du chaos, tandis que ce n'est pas exactement ces cas-là. Dans la réalité, il y a également aussi
Il y a toujours un décalage entre la réalité et le sentiment d'insécurité. Mais Florencia Dancilio, j'entendais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire on n'est pas là au seuil d'un retour d'une dictature militaire en Uruguay, mais malgré tout, avec ce sentiment d'insécurité qui est en train de monter, on a quand même un nouveau parti militariste qui vient de faire un score quand même assez inédit, en tout cas depuis la fin de la dictature du côté de l'Uruguay. On a des citoyens qui ont été invités récemment à s'exprimer sur un référendum qui aurait pu donner plus de pouvoir à l'armée dans le dispositif de lutte contre l'insécurité. Alors il se trouve qu'il a été rejeté, mais de très peu, hein, puisque c'est 47% des votants seulement qui s'y sont dit... 47% voilà, des votants qui s'y sont dit favorables. Est-ce que on pourrait avoir là dans les mois qui viennent, les années qui viennent peut-être, une montée en puissance de l'influence au moins de l'armée dans le paysage politique? J'entends bien, il n'y aura pas demain un militaire à la tête de l'État, mais une montée en puissance de son influence dans le paysage politique, vous le voyez déjà?
Tout à fait. D'abord, dans l'espace médiatique, ils sont une grande présence. Également, ils sont intégrés au système des partis, comme vous l'avez bien dit. Il y a 3 sénateurs, 11 députés, ils ont remporté les 11% des votes, et aussi quelque chose qui me semble la plus importante, on a un deuxième tour des élections le 25 novembre, il y a une coalition des droites qui est en train de se créer, et il y a un parti favori, que c'est le Parti National, un parti traditionnel des droites libérales, mais si cette droite libérale a des chances aujourd'hui de remporter les élections nationales en Uruguay, et grâce au vote de l'extrême droite. Donc, elle a également un rôle clé aujourd'hui dans cette élection du 25 novembre. Donc, il y a une entrée en force au Parlement avec des propos en fait qui sont bien à droite, c'est-à-dire un refus des droits des minorités, des droits humains, un discours répressif, etc. Mais également, ils ont un rôle très important, en fait, en tant que dans cette coalition des droites libérales. Vous avez dit, ça, c'est le parti des centre-droite, un centre-droite qui glisse forcément vers la droite, en fait, et s'allie sans cesse à l'extrême droite. Donc, bien évidemment, il y a un glissement général de du panorama politique vers la droite.
Oui. Peut-être encore une question, si vous le permettez, Florencia Dansilio. Tout à l'heure, on évoquait avec Mochirio la question de la mémoire de la dictature du côté du Brésil. Il se trouve que l'Uruguay et le Brésil ont ceci de commun, qu'ils ont fait le choix d'une loi d'amnistie empêchant de juger des militaires. Alors, il se trouve que les deux pays ont aussi, dans les années 2000, lancé un certain nombre de procédures, notamment quand les gauches sont arrivées au pouvoir, mais est-ce que vous avez le sentiment que le fait que ce travail de justice transitionnelle n'ait peut-être pas été fait comme il aurait fallu, est-ce que vous pensez que ça joue aussi dans ce retour du militarisme dans le paysage uruguayen?
Tout à fait. Enfin, de toute manière, la situation de l'Uruguay, c'est pas la même du Brésil. En fait, en Uruguay, même s'il existe encore une loi d'amnistie, en fait, qui interdit de faire des jugements, comme ça a été par contre les cas de l'Argentine, il y a eu une mobilisation sociale de la part des associations des droits de l'homme, une commission vérité qui a été très très forte, qui a réussi à rassembler en fait en plus des adhésions des nouvelles générations qui n'ont pas vécu forcément la dictature militaire. Et qui ont donc du coup organisé le rassemblement des signatures pour avoir un référendum en 89, un deuxième référendum en 2009. On n'a pas, ils sont pas arrivés au vote nécessaire pour enlever cette amnistie, mais quand même il y a une mobilisation sociale très forte. Des politiques de mémoire qui ont été mises en place, évidemment, par la gauche depuis 2005, une fois au pouvoir. Donc, la dictature est aujourd'hui intégrée dans les manuels scolaires. Donc, il y a tout un travail, quand même, de mémoire qui est très pressant. Et néanmoins, côté justice, en fait, il reste encore beaucoup à faire. Je pense que, bien évidemment, ça a été un des variables expliquées. Je pense aussi, vu qu'on parle du Brésil, que le contexte régional a aussi beaucoup influencé. L'Uruguay, même si on parle parfois de El Dorado, n'est pas non plus une île. Et il est un pays frontalier au Brésil. Il est très influencé par le Brésil, et je pense que
et l'arrivée de Bolsonaro a peut-être favorisé effectivement ce retour du militarisme du côté de l'Uruguay. Et puis je rappelle peut-être aussi, puisque vous évoquiez la question de la justice transitionnelle, que effectivement dans les années 2000 il y a des choses qui ont été faites, et notamment le général Alves qui a été condamné à 25 ans de prison pour disparition forcée et assassinat, et également l'ancien dictateur Juan Maria Bordaberry qui a été lui inculpé, mis en détention provisoire avant de bénéficier d'une assignation à résidence. Donc quand même, des choses ont été faites, même s'il reste encore évidemment du travail. Merci beaucoup en tout cas, Florencia Dansilio, d'avoir été avec nous ce matin et nous avoir parlé de l'Uruguay. On va prendre tout de suite la direction du Paraguay.
Nous allons honorer la confiance du peuple paraguayen. Nous allons travailler avec honnêteté, avec intégrité et avec beaucoup de sacrifices. Donnons tout ce que nous avons pour que dans 5 ans, je puisse sortir dans la rue et être applaudi des Paraguayens pour avoir accompli tout ça.
Voilà, cette voix qu'on vient d'entendre, c'est celle de Mario Abdo Benitez au soir de sa victoire présidentielle d'avril 2018. Il se trouve qu'Abdo, Mario Abdo Benitez, il n'est autre que le fils du secrétaire privé d'Alfredo Stroessner, qui avait dirigé le pays d'une main de fer au cours de la dictature entre 1954 et 1989. Est-ce qu'il faut voir effectivement cette élection comme là aussi une forme de retour du militarisme au Paraguay? On va retrouver Damien Larrouquet, qui est membre de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes, docteur associé au série Sciences Po. Comment vous interprétez, Damien Larrouquet, cette élection de Mario Abdo Benitez? Est-ce que c'est le signe d'un retour en force du militarisme ou est-ce que c'est le signe plus prosaïquement finalement que la page de la dictature est tournée du côté du Paraguay?
L'élection de Mario Abdo Benitez, qui représente la branche la plus droitière, on va dire, du coloradisme, malgré tout, c'est quelqu'un qui est pour moi un démocrate convaincu et de fait, l'arrivée au pouvoir montre bien effectivement que le Paraguay a négocié sa transition démocratique, qu'il faut le reconnaître, a été malgré tout convulsive. Et on peut dire que depuis une petite dizaine d'années, les choses se sont stabilisées. Mais alors maintenant, a-t-elle été un succès ou pas? Ça, c'est la question qu'on peut se poser.
On va y revenir sur cette transition, Damien Larrouquet, mais effectivement, on a entendu beaucoup dans la bouche de Mario Abdo un discours visant à dépasser ce passé sombre, visant à appeler à la réconciliation, à l'unité du pays. Mais est-ce que c'est seulement de la rhétorique ou est-ce qu'il y a effectivement des actes politiques qui visent à œuvrer pour l'unité des Paraguayens?
Ce qui est sûr, c'est qu'il convoque des images ou des représentations qui rappelle le régime de Stroessner, le Stronato, par exemple, le jour de son investiture, il va défiler dans les rues d'Asunción avec une voiture décapotable, donc comme le faisait le dictateur. Donc certains vont voir qu'il s'agit là d'une manifestation tout simple qui participe en fait de l'apparat propre à toute démocratie, en fait l'apparat du pouvoir, et d'autres au contraire verront là une forme de gabegie d'un régime qui reste finalement patrimonialiste, et donc les logiques, la corruption viscérale, consubstantielle au fonctionnement du Stronato continuerait à perdurer en démocratie. Donc il y a cette tension, elle est évidente, mais on peut remarquer aussi malgré tout que c'est quelqu'un qui se montre assez conciliant. Pour commencer, les militaires sont totalement aujourd'hui inféodés au pouvoir civil, domestiqués, et de ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'il y ait une menace, un retour de cette militarisation politique. Et quels sont les signaux qu'il envoie? C'est tout simplement aussi le fait qu'il se comporte comme un démocrate. C'est-à-dire que c'est un président qui doit gouverner avec le Parlement, en sachant aussi que la gouvernabilité du pays, elle est compliquée pour un président au Paraguay, parce que la Constitution accorde en fait énormément de prérogatives au Parlement plus qu'au président.
Oui, c'est un vrai régime parlementaire et le président a des pouvoirs relativement limités. D'abord, il ne peut pas se représenter. Il n'a pas de droit de veto qui lui permettrait de s'opposer à un décret parlementaire. Il ne peut pas dissoudre l'Assemblée. Donc effectivement, il est assez limité. Pourtant, Damien Larrouquet, en ce moment, il y a une petite musique qui est en train de monter du côté du Paraguay avec une possible réforme constitutionnelle qui permettrait précisément éventuellement un président, alors peut-être pas Mario Abdo Benitez, mais de se représenter. Alors Benitez, il a bien expliqué qu'il ne souhaitait absolument pas faire un nouveau mandat, mais est-ce qu'on peut le croire ou ce tripatouillage constitutionnel est une première étape pour essayer peut-être de se maintenir et peut-être pour essayer de présidentialiser un tout petit peu ce régime?
Alors, c'est le régime le plus parlementaire d'Amérique latine, mais c'est un régime présidentiel. Soyons clairs sur les termes, c'est-à-dire il y a une séparation organique entre le pouvoir exécutif et législatif. Alors effectivement, l'un des points que vous avez évoqué, c'est qu'il n'y a pas de réélection possible, pas dans le temps non plus. C'est un serpent de mer de la vie politique paraguayenne. C'est pas le premier à avoir une velléité comme ça de proposer une réforme constitutionnelle de ce type. Pour moi, elle va être très difficile à mettre en place. Si on regarde dans les dernières années, notamment en 2017, son prédécesseur Horacio Cartes, qui est du même parti que lui, n'a pas réussi. Ça aboutit même à une crise politique particulièrement aiguë avec révolte populaire, incendie du Congrès. Donc ça, c'est une réforme qui est compliquée.
Damien Larrouquet, au Paraguay, on est dans une situation où on a un parti qui est
quasi hégémonique, puisque le Parti Colorado, que vous avez mentionné à plusieurs reprises, a été au pouvoir pendant quasiment 7 décennies sans interruption. Mais derrière cette hégémonie apparente, il semble qu'on ait quand même aussi un parti qui fasse l'objet de divergences assez importantes. Elle avait d'ailleurs sauté aux yeux lorsque l'ancien président Horacio Cartes, lui aussi membre du Colorado, avait choisi de ne pas être présent à la cérémonie d'investiture de son successeur. Quel est l'état des divisions au sein de ce parti Colorado et sur quoi se fondent ces divisions? Est-ce que c'est seulement des querelles de personnes ou c'est plus profond que ça?
Alors effectivement, ça c'est une tendance qui n'est pas que propre au parti Colorado, qu'on retrouve aussi dans le parti libéral. Ce sont ce que Sartori appelait des partis catch-all, donc des partis attrape-tout. Et effectivement, les divisions, elles sont aussi bien personnelles que programmatiques et elles sont très ancienne, c'est-à-dire que même dès la fin de la dictature, au milieu des années 80, la fameuse unité granitique du régime, c'est-à-dire cette union entre le dictateur, le parti Colorado et l'armée, elle va commencer à se fissurer au sein même, en fait, du coloradisme qui se divise en sept tendances. Et c'est même très difficile d'arriver à les distinguer parce qu'en réalité, oui, c'est surtout des conflits personnels, des visions qui sont divergentes sur certains points, mais globalement, c'est surtout aussi des guerres d'ego. Et cette tradition-là, elle a perduré. Ceci étant, je dirais que le Parti Colorado reste malgré tout sur l'axe gauche-droite, quand même un parti à droite, et un parti à droite qui est conservateur, ruraliste, voilà, et qui défend les intérêts surtout de l'agro-business.
Et alors pourquoi, si on inverse les choses, pourquoi est-ce que précisément les forces de gauche progressistes ont tant de mal à s'imposer au Paraguay?
Ce qui est très étonnant en fait, c'est de voir que le discours de gauche est quasiment inaudible au Paraguay. C'est-à-dire quand j'entends un discours de gauche progressiste tel qu'on l'entend aujourd'hui en Amérique latine, c'est-à-dire tout ce débat autour, par exemple, du mariage gay, de l'avortement, des droits des personnes LGBT, etc. Moi, je pense que la dictature a imposé une telle chape de plomb avec une éducation qui est malheureusement très pauvre au Paraguay qu'on pourrait croire, effectivement, que la société civile reste enquistée dans une forme de ce qu'on a appelé un straussnisme globalisé. Et c'est vrai que pour une société qui est jeune, il ne faut pas oublier qu'il y a, je crois, 6,5 millions de Paraguayens, vous avez la moitié de la population qui a moins de 30 ans, c'est-à-dire une population qui n'a pas connu le straussnisme, mais qui malgré tout véhicule encore des valeurs qui sont très conservatrices. Mmh. Et donc du coup, effectivement, cette gauche, elle est résiduelle aussi parce que il semble qu'elle n'ait même pas d'espace social encore à partir duquel elle puisse s'arrimer, en fait. C'est très étonnant de voir que ça reste un pays foncièrement conservateur.
Brasil, patriota, só na hora do gol. Brasil, patriota, só na hora do show. Mas quando a lama avança, a pátria não é tão gentil. O Supremo rasga a carta, clava a mata no covil. Que a natureza se rebele, selvagem cubra a terra, tome tudo de volta.
Merci beaucoup à vous, Damien Larouquet, membre de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes, docteur associé aux séries Sciences Po. Et je rappelle que vous avez écrit l'introduction du dossier sur le Paraguay du cahier des Amériques latines, le Paraguay 30 ans après Stroessner. Merci également, Mauthierio, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Nous avoir éclairé sur ce Brésil et sur ce retour du militarisme. Je rappelle, vous concernant la politique en uniforme, l'expérience brésilienne 1960-1980 aux presses universitaires de Rennes. Il nous reste quelques secondes. Mauthierio, vous connaissez évidemment Lucas Santana, qu'on entend là, c'est son tout dernier album, alors on va en profiter encore un tout petit peu.
Patriota, só na hora do show, mas quando a fome no mapa é longe de onde se come aqui, o herói cobra do calo, berço finge que não viu.
Ce titre-là, c'est Brasil Patriota. Voilà, qui appelle peut-être à l'unité du pays, peut-être une réponse à Bolsonaro, tout à fait subtile et en musique. Allez, on retrouve Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
On célèbre ce mois-ci, Brice, le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin.
Le mur de la honte, érigé pour empêcher les Allemands de l'Est de fuir dans la partie occidentale de la ville, l'oppression et la misère qui faisaient régner le régime communiste. Ce fut le symbole de la coupure d'une nation, l'Allemagne, et au-delà de l'Europe elle-même, en deux alliances, politiques et militaires, sur le pied de guerre et prêtes à en découdre pendant plus de 40 ans. Ce n'était pas vraiment la fin officielle de la guerre froide, il restait plus de 100 000 soldats en RDA, mais tous ceux qui ont vécu ce moment historique sur place, en Europe centrale, comme c'est mon cas, se souviennent de l'extraordinaire euphorie ressentie alors. Certes, à la suite de la réunification de l'Allemagne démocratiquement réclamée au cours d'élections enfin libres, l'unification avérée des peuples européens interviendrait plus tard avec les élargissements de l'Union européenne de 2004 puis de 2007. Mais d'ores et déjà, l'Europe de l'Ouest avait compris qu'elle devait la fin de la guerre froide au soulèvement de ses frères séparés d'Europe centrale. Une affaire infiniment dangereuse s'achevait à la satisfaction générale.
Ah oui, Brice, parce qu'on l'oublie, mais le monde est passé d'ailleurs à plusieurs reprises tout près de l'enfer nucléaire.
Oui, oui, ce fut le cas lors de la guerre de Corée. On s'en souvient, en 1950-51, le général MacArthur a réellement proposé d'utiliser des bombes atomiques. Mais aussi à la fin de 1962, lorsque les États-Unis découvrirent que les Soviétiques avaient installé des rampes de lancement destinées à recevoir des missiles dans l'île voisine de Cuba. Mais on a tendance à oublier combien dangereuse apparaissait la situation internationale au tournant des années 1970 et 80. Et cela est fort bien documenté dans un livre qui vient de paraître, « Histoire mondiale de la guerre froide », dû à un historien norvégien, Odd Arne Westad. Il rappelle que ce regain de guerre froide a commencé vers la fin de la présidence de Jimmy Carter. Au Nicaragua, les sandinistes avaient pris le pouvoir et les Américains redoutaient leur influence sur le Salvador. L'intervention de soldats cubains discrètement encadrés par des soviétiques dans des conflits en cours, 30 000 en Angola, 15 000 en Éthiopie, l'intervention de l'armée rouge elle-même en Afghanistan, avait convaincu ce président démocrate que, je cite, pèse des menaces extrêmement graves pour la paix, comme il le dit dans son dernier grand discours télévisé. Son conseiller à la sécurité nationale, Zbigniew Brzezinski, décrivait lui un arc de crise allant depuis la Corne de l'Afrique jusqu'au bord de l'océan Indien en passant par la mer Rouge. Et cette inquiétude des Américains face à une Union soviétique qui semblait partout à l'offensive fut l'une des causes principales de la victoire électorale du républicain Ronald Reagan. Les dépenses militaires avaient déjà considérablement augmenté lors de la dernière année du mandat de Jimmy Carter, mais elles vont exploser littéralement sous Reagan. Au début des années 1980, écrit à ce propos Westad, la guerre froide prend une allure extrêmement périlleuse, probablement plus qu'elle ne l'a jamais été depuis la crise des missiles de Cuba en 62. Car non seulement Reagan arme au Nicaragua les contras anti-sandinistes, mais il met un embargo sur une partie des exportations de gaz et de pétrole par lesquelles l'URSS finançait ses énormes emprunts alors en Occident. Il réplique à l'installation de missiles balistiques mobiles à trois têtes nucléaires, les fameux SS-20, en décidant l'installation en Europe de missiles à moyenne portée, les Pershing 2, et de missiles de croisière. Il lance son fameux projet extravagant d'un bouclier antimissile à base de laser déployé dans l'espace. Mais en septembre 83, alors que l'inamovible dirigeant suprême de l'URSS, Leonid Brezhnev, est mort l'année précédente, l'armée de l'air soviétique abat un avion de ligne sud-coréen égaré dans son espace aérien. À bord, 61 citoyens américains, dont un membre du Congrès. Reagan vient à la télévision dénoncer, je cite, un crime contre l'humanité, et juste après, on frôle réellement la guerre. Lors des manœuvres de l'OTAN, dites Able Archer 83, elles simulent l'escalade d'un conflit est-ouest jusqu'aux premières frappes nucléaires. Moscou, mal informé, place sa flotte aérienne en état d'alerte. On est à la merci d'une erreur d'interprétation tragique sur les intentions réelles de l'adversaire. Et pourtant, s'il en suit bien Westad, c'est ce même Ronald Reagan qui va entamer la désescalade. D'un tempérament optimiste, il est persuadé de la supériorité technologique des États-Unis. Il déteste personnellement l'arme nucléaire. Et lorsque Mikhail Gorbatchev devient le nouveau secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique en 85, eh bien, ces deux hommes vont s'entendre pour réduire à la fois les dépenses consacrées aux armements et le soutien au mouvement visant à déstabiliser l'autre à l'étranger. C'est la dernière étape de la guerre froide, celle qui mènera à la paix à travers la dissolution du pacte de Varsovie.
Merci beaucoup Brice Couturier donc pour cette chronique et donc ce livre qui vient de paraître, Histoire mondiale de la guerre froide, de cet historien norvégien Odd Arne Westad.
Chez Perrin.
Chez Perrin, voilà, c'était la dernière information qu'il nous fallait.